VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 19 septembre 2018 en direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
L'ANC au pouvoir en Afrique du Sud exprime des inquiétudes sur la situation actuelle en République démocratique du Congo.
Au Nigeria, crainte d'une recrudescence des violences dans le nord-est après l'exécution d'une employée du CICR par Boko Haram.
Au Libéria, ouverture d'une enquête sur la disparition de conteneurs de billets de banque.
La Russie et Israël tentent de désamorcer la crise après la destruction accidentelle d'un avion russe en Syrie par les forces de Bachar al-Assad.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Élection présidentielle du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo, l'ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, a mis en garde contre un éventuel chaos au Congo si ses consultations électorales ne sont pas fondées sur les principes et les valeurs partagées au sein de la SADC. Le parti sud-africain a signé un communiqué avec 6 leaders de l'opposition congolaise. Le point avec Eddy Sango.
L'ANC demande au gouvernement sud-africain de s'engager avec celui de la RDC et la communauté pour le développement de l'Afrique australe au respect du protocole électoral de la SADC, lequel consiste à promouvoir la tenue et l'observation d'élections démocratiques fondées sur les principes et les valeurs partagées de la démocratie, l'état des droits et le respect des droits humains, rappelle l'ANC et la délégation des partis et regroupements de l'opposition congolaise qui ont co-signé les documents. Pour l'ANC, la situation en RDC peut conduire au chaos, à l'instabilité et à la violence si elle n'est pas résolue en urgence. Et si Magashule, secrétaire général de l'ANC, a signé les textes au nom de son parti, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et Adolphe Mozito l'ont fait côté opposition congolaise. Le gouvernement du président congolais répète qu'il refuse toute ingérence dans les processus électoraux qui doit désigner un successeur au président Kabila. Fin août, Kinshasa avait même refusé la nomination de l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki comme envoyé spécial en RDC, une nomination annoncée par la presse mais jamais confirmée officiellement par Pretoria.
Au Nigeria, l'exécution de la sage-femme Saifura Korsa du CICR, détenue depuis plus de 6 mois par Boko Haram, et les rumeurs sur la mort supposée d'un haut responsable du groupe djihadiste font craindre une recrudescence des violences dans le nord-est. Selon des informations publiées la semaine dernière, des combattants de la faction de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont tué leur numéro 2, Maman Nou. À noter que cette faction a multiplié ces dernières semaines les attaques contre l'armée nigériane, ce qui, selon les analystes, est le signe que le groupe a renforcé ses capacités de nuisance et son organisation.
Au Libéria, ouverture d'une enquête sur la disparition de conteneurs et de sacs remplis de billets de banque d'une valeur de près de 100 millions de dollars. Cet argent était destiné à la Banque centrale du Libéria, a annoncé hier le gouvernement. Le point avec Nani Talani.
D'après le ministre libérien de l'Information, Len Eugène Nagbe, l'enquête a confirmé que le montant disparu est de 15 milliards de dollars libériens, soit 97 millions de dollars américains. Il a ajouté que le gouvernement mettra tout en œuvre pour retrouver les responsables de ce vol. Les premiers éléments de l'enquête, ouverte début août, montrent que les liasses de nouveaux billets imprimés à l'étranger sont arrivées au Libéria entre novembre 2017 et août 2018. Cette période correspond au dernier mois de la présidence d'Ellen Johnson Sirleaf. L'investiture de George Weah à la tête du pays a eu lieu en janvier dernier. Le quotidien en ligne Front Page Africa avance que des membres du personnel de la Banque centrale du Libéria ont réceptionné ces conteneurs de billets et les ont emmenés du port fin mars, mais ne sont jamais arrivés à la banque. Le ministère de la Justice affirme que les enquêteurs disposent de preuves qui attestent que la nouvelle administration n'avait pas été informée de l'arrivée de ces billets. Ils doivent retrouver la trace de cet argent, mais aussi tenter de déterminer combien de dollars libériens ont été imprimés à l'étranger et injectés dans l'économie locale par les anciennes autorités, dans un pays où la monnaie locale cohabite avec le dollar américain.
Le président angolais João Lourenço et le premier ministre portugais António Costa ont tourné hier la page de plusieurs années de tensions politiques entre leurs deux pays en promettant de renforcer leur coopération économique. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
La rencontre a permis de faire prévaloir le bon sens, le pragmatisme et le sens de l'État pour que les relations entre les deux pays en sortent renforcées, a indiqué João Lourenço à sa sortie d'un tête-à-tête avec António Costa. Monsieur Costa, de son côté, a souhaité le développement du partenariat économique et financier entre les deux pays sur une base égale où chacun contribue à la richesse de l'autre. Très liés économiquement, Luanda et Lisbonne étaient en froid depuis l'ouverture d'une enquête pour corruption visant des dirigeants angolais dont l'ancien vice-président Manuel Vicente. La décision du Portugal de le juger sur son territoire avait provoqué la colère de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, qui a régné sans partage sur son pays de 1979 à 2017. Les liens entre les deux pays se sont réchauffés depuis la décision de transférer à Luanda le procès de M. Vicente, comme le souhaitait l'Angola. Le président João Lourenço et le premier ministre António Costa ont marqué la fin de la brouille entre leurs pays en signant un nouvel accord de coopération stratégique bilatéral pour la période 2018-2022.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont cherché mardi à désamorcer une crise après que les forces syriennes ont abattu accidentellement un avion russe à la suite de frappes israéliennes en Syrie. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Un avion de guerre russe a été abattu au large de la Syrie, par erreur selon Moscou, par la défense antiaérienne syrienne, et 15 membres d'équipage ont été tués. L'armée russe a dans un premier temps jugé Israël responsable du drame, et l'armée israélienne a de son côté contesté que son aviation se soit servie de l'appareil russe comme couverture, comme annoncé. Puis, changement de ton, le président russe Vladimir Poutine a parlé d'un enchaînement de circonstances accidentelles tragiques, semblant adopter un ton plus conciliant envers Israël. C'est apparemment le résultat d'une conversation téléphonique avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les deux dirigeants se sont compris. L'État hébreu a même proposé d'aider les Russes dans l'enquête et le président russe a exhorté le camp israélien à ne pas permettre que ce genre de situation se reproduise d'après le Kremlin. Cet incident inédit est survenu alors que la Russie, alliée de Damas, et la Turquie, soutien des rebelles en Syrie, ont annoncé un accord sur la province d'Idleb, éloignant à court terme la perspective d'une offensive du régime contre ce dernier grand bastion insurgé dans le nord-ouest syrien. Les autorités de Damas et de Téhéran ont salué cet accord, tout comme le secrétaire général de l'ONU.
Le leader nord-coréen Kim Jong-un a annoncé aujourd'hui qu'il comptait effectuer dans un avenir proche une visite historique à Séoul à l'issue d'un sommet à Pyongyang avec le président sud-coréen Moon Jae-in. Ce dernier s'était rendu à Pyongyang pour tenter de sortir de l'impasse les négociations sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Le président sud-coréen a ajouté que la Corée du Nord avait accepté de fermer de façon permanente son site de test de moteurs de missiles de Soe et le pas de tir de Chongqing en présence d'experts des nations concernées.
Ici aux États-Unis, les avocats de Christine Blasey Ford disent qu'elle veut une enquête avant de pouvoir témoigner publiquement. Elle a accusé le candidat à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, d'une agression sexuelle qui remonte à plus de 30 ans. Le juge Kavanaugh a démenti ces allégations et doit à nouveau apparaître lundi devant la commission judiciaire du Sénat. Son accusatrice a été aussi invitée à ces audiences publiques, mais dans leur lettre au président républicain de la commission, Chuck Grassley, ses avocats ont souligné que certains sénateurs semblent déjà convaincus que Mme Blasey Ford a tort et donne raison à M. Kavanaugh. Le président Donald Trump a de nouveau réaffirmé sa confiance au juge Kavanaugh hier.
M. Trump doit visiter aujourd'hui la Caroline du Nord pour constater des visu les dégâts causés par le passage de l'ouragan Florence et les difficiles efforts de secours. Dans un tweet, il a rendu hommage hier à son équipe pour le travail accompli et il s'est mis à attaquer ses adversaires démocrates qu'il a accusés de commencer bientôt à mentir en disant que la riposte de son administration a été, je cite, un désastre. L'ouragan a fait au moins 32 morts dans la région et causé de grandes inondations dans plusieurs villes de Caroline du Nord.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Nanit Talani.
Le Royaume-Uni a suspendu son aide publique à la Zambie en raison des accusations de détournement de fonds et de corruption contre le gouvernement révélées récemment dans la presse. Le gel de toute aide bilatérale du Royaume-Uni sera maintenu jusqu'à ce que les résultats d'un audit en cours soient connus. Le gouvernement britannique, qui applique la tolérance zéro en matière de fraude et de corruption, devait verser 47 millions d'euros d'aide à la Zambie pendant l'année fiscale 2018-2019. Au Sénégal, Atlantic Microfinance for Africa a obtenu l'agrément des autorités pour ouvrir une nouvelle filiale. La holding du groupe Banque Centrale Populaire pourra ainsi bientôt exercer ses activités au Sénégal, comme c'est déjà le cas en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Mali. Enfin, Pékin a annoncé hier l'imposition à partir du 24 septembre prochain de nouveaux droits de douane punitifs sur des produits américains représentant 60 milliards de dollars d'importation annuelle en Chine. Cette mesure répond à la décision du président américain Donald Trump de taxer à partir du 24 septembre à hauteur de 10% pour 200 milliards de dollars supplémentaires d'importations chinoises aux États-Unis. La Chine importe presque 4 fois moins de produits américains qu'elle n'en exporte vers les États-Unis.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Barcelone en grande forme pour la reprise de la Ligue des Champions hier soir.
Victoire convaincante du FC Barcelone 4-0 contre le PSV Eindhoven avec un triplé de Lionel Messi dont un premier but sur un magnifique coup franc. En deuxième mi-temps, Ousmane Dembélé a aussi marqué pour les Blaugrana. Une victoire 4-0 entachée par l'expulsion du champion du monde, exclu pour 2 cartons jaunes, Samuel Umtiti. De son côté, l'Inter Milan a souffert mais s'est imposé 2-1 contre Tottenham. Eriksen avait ouvert le score pour les Anglais, puis Icardi et Vecino permettent aux Italiens de l'emporter. Revenu de 2-0 à 2 partout, le Paris Saint-Germain s'est incliné logiquement au bout du temps additionnel à Liverpool. Firmino, incertain avant la rencontre, est rentré en cours de jeu. Il a crucifié les derniers espoirs parisiens dans les ultimes minutes de jeu de ce match à Anfield Road. Galatasaray a profité de la réception du Lokomotiv Moscou pour l'emporter 3-0 et prendre la tête du groupe D. Le méconnu capverdien Gary Mendes Rodriguez avait ouvert le score pour les Stambouliotes. Seule ombre au tableau, l'expulsion du Sénégalais Badou Ndiaye. A noter également le match nul un but partout entre Schalke 04 et Porto. Un but partout, Iker Casillas, le gardien espagnol du FC Porto, est devenu le premier joueur à disputer, tenez-vous bien, 20 Ligues des Champions. Le Borussia Dortmund a fait le travail en s'imposant à Bruges, 1-0. Globalement dominé, l'AS Monaco n'a pas su tenir à domicile contre l'Atlético Madrid. Les Monégasques se sont inclinés 2-1 contre l'un des favoris de cette Ligue des Champions. Naples a largement dominé l'Étoile Rouge de Belgrade, mais doit se contenter du point du match nul.
Et ce soir, c'est le triple tenant du titre, le Real Madrid, qui remet son titre en jeu.
Le Real est désormais entraîné par l'ancien sélectionneur de l'Espagne, Julen Lopetegui, et compte sur ses attaquants Gareth Bale, Karim Benzema face à l'AS Rome. L'Ajax Amsterdam reçoit l'AEK Athènes, Hoffenheim en déplacement chez le Shakhtar Donetsk, le Bayern de Munich qui voyage au Portugal chez le Benfica, Manchester City accueille Lyon, le Victoria Plzeň face au CSKA Moscou, les Young Boys de Berne contre Manchester United et enfin le FC Valence contre la Juventus. À noter, on l'a appris hier, que Douglas Costa, l'attaquant qui avait craché le week-end dernier en Serie A, il a écopé de 4 matchs de suspension. Le joueur manquera les matchs contre Frosinone, Bologne, Naples et l'Udinese.
Transfert.
À 35 ans, Manucho, laissé libre cet été par le Rayo Vallecano, reste en Espagne. L'attaquant angolais passé par Manchester United, Hull ou encore le Panathinaikos s'est engagé avec Cornella, qui est un club de 3e division espagnole. Et puis prêté la saison passée à Benevento, où il a inscrit 8 buts en 11 matchs de Serie A, Cheikh Diabaté va découvrir un nouveau championnat, celui des Émirats Arabes Unis. L'attaquant international malien de 30 ans appartenait au club d'Osman Lispor. Il s'est engagé hier avec l'Emirates Club. La durée du contrat n'a pas été communiquée.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Burkina Faso fait face à de grands défis sécuritaires avec la montée du terrorisme dans le pays. En 3 ans, une centaine de personnes sont décédées et ces derniers jours, l'armée a annoncé avoir détruit des bases terroristes dans l'Est. Mais l'opposition estime que le pouvoir en place ne déploie pas assez d'efforts dans cette lutte contre le terrorisme. Le point avec le correspondant de VOA Africa, Ouagadougou, Lamine Traoré.
Le Premier ministre a reconnu devant la représentation nationale que le pays est en guerre. En 3 ans, 118 personnes, civiles comme militaires, ont été tuées. Il faut agir. Le Premier ministre Paul Kabatieba.
La situation sécuritaire dans le pays s'est considérablement dégradée depuis le début de cette année. Il s'agit sans doute d'une guerre. Une guerre injuste, imposée à notre peuple. Nous allons la mener pour défendre chaque pouce de notre territoire national. Nous allons la mener pour assurer la sécurité des Burkinabés et de leurs biens.
Mais l'opposition estime que le pouvoir en place ne fait rien dans cette lutte contre le terrorisme. Jean Nakoulma de l'UPC, Union pour le Progrès et le Changement, principal parti d'opposition.
L'insécurité prend des proportions inquiétantes dans notre pays. Dans la région de l'Est, en plus des attaques par mines piégées contre les forces de défense et de sécurité, les assaillants s'en prennent à des édifices publics et assassinent froidement des civils, comme c'était le cas samedi dernier dans la Kompienga. Les attaques auraient pu être circonscrites, voire stoppées, si nos autorités avaient équipé de manière adéquate nos forces de défense et de sécurité, suffisamment réorganisé et outillé les services de renseignement, tout en veillant à ce que le moral de nos valeureux soldats demeure haut. Mais tel n'est pas le cas.
Selon un communiqué de l'état-major, l'armée a effectué des frappes aériennes ce week-end dans l'est du pays, désormais principal bastion des terroristes. Des bases terroristes détruites. Ce n'est qu'une victoire d'étape, selon Laurent Kibura, spécialiste en sécurité et développement.
L'idée terroriste est un monstre qui se développe, qui mue et qui se métamorphose et qui s'adapte. Pour que ses actions soient efficaces, elles doivent être soutenues et continues et non ponctuelles, qui laissent le temps à ces groupes terroristes de se réorganiser et de revenir. Il faut que nous nous disions que nous sommes en situation de guerre qui est appelée à durer. Nous devons armer nos forces armées et nos services de renseignement à faire face à cette donne pour de bon.
Un conseil de défense devrait avoir lieu toutes les 2 semaines. Il sera présidé par le président du Faso lui-même, Roch Kabore, a annoncé le Premier ministre Paul Kabatieba. La dernière attaque dans l'est du pays a fait 8 civils tués. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
La faim augmente dans le monde en cause les caprices du climat, les conflits armés et les troubles politiques. 5 agences des Nations Unies révèlent dans un rapport qu'en 2017, le nombre de personnes en état de manque chronique de nourriture a grimpé. Un chiffre qui avait tendance à reculer auparavant. Eddie Sango a joint Dominique Bourgeon, directeur de la division des urgences et de la réhabilitation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Depuis l'an dernier, 2 ans en fait, nous observons une augmentation et cette année, malheureusement, nous comptons 821 millions de personnes, soit 1 personne sur 9 dans le monde qui est en situation de sous-alimentation chronique. Alors à cela, nous avons identifié 3 causes principales qui sont tout d'abord la prévalence des conflits dans un certain nombre de pays qui a un impact important sur la propagation de l'insécurité alimentaire dans ces pays. La deuxième cause que nous avons identifiée est liée à la variabilité du climat et aux extrêmes climatiques. Et ensuite, la troisième cause, malheureusement, qui affecte un certain nombre de pays, est liée à la situation de crise économique que traversent un certain nombre de ces pays. Cette année, l'accent est mis dans le rapport sur la variabilité du climat et les extrêmes climatiques. Et ça nous préoccupe beaucoup dans la mesure où nous voyons qu'en fait, nous avons un nombre croissant de pays qui sont confrontés à ces situations, avec, dans ces pays, un nombre croissant de personnes en insécurité alimentaire.
Et l'Afrique, dans tout cela, reste le continent le plus touché, mais dans quelle proportion ?
21% de la population, soit 256 millions de personnes, sont en situation de sous-alimentation chronique. C'est l'Afrique subsaharienne qui est la plus affectée, puisqu'on considère qu'entre une personne sur quatre et une personne sur cinq pourrait avoir souffert d'une privation d'alimentation chronique en 2017. C'est en particulier en Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest, qui nous préoccupe, et c'est lié essentiellement à des situations de sécheresse, de hausse des prix et de ralentissement de la croissance, notamment du PIB par habitant dans ces pays. Il est clair que l'augmentation de la prévalence combinée à la croissance de la population a entraîné une augmentation qui est assez spectaculaire du nombre de personnes en sous-alimentation en Afrique, puisqu'en fait on est passé de 181 millions de personnes en 2010 à 222 millions en 2016, ce qui représente quand même une augmentation de près de 23% en 6 ans.
Que faut-il faire pour renverser la tendance ?
Tout d'abord, il y a la question des conflits en Afrique qui affectent beaucoup de pays. Et l'an dernier, une organisation comme la FAO, avec ses partenaires, avait attiré l'attention sur la famine qui avait été déclarée au Sud-Soudan, mais aussi les risques de famine qui menaçaient d'autres pays, dont la Somalie et le nord-est du Nigeria. Donc tout d'abord, il est évident que la paix et la stabilité sont des éléments essentiels qui doivent être mis en place dans ces pays. Ensuite, par rapport effectivement à la question de la variabilité du climat et des extrêmes climatiques, il est absolument fondamental que nous renforcions ce qu'on appelle la résilience face au climat en combinant des actions d'adaptation au changement climatique avec des actions liées à la réduction du risque de catastrophe, à finalement diminuer l'exposition des agriculteurs et des petits producteurs au risque de catastrophe.
Dominique Bourgeon, directeur de la division des urgences et de la réhabilitation de la FAO à Rome.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Afrique de l'Est, la compagnie Coca-Cola tente de s'autoréguler tout en faisant face à la menace gouvernementale d'interdire les bouteilles en plastique. Il y a aussi les restrictions sur les importations de déchets plastiques par la Chine. Abdourahman Dia.
Le géant des boissons gazeuses produit environ 250 millions de bouteilles de plastique par an en Afrique de l'Est, une quantité qui cause beaucoup de problèmes dans la région, notamment au Kenya où les bouteilles en plastique obstruent fréquemment les égouts et exacerbent les inondations. À Kampala, en Ouganda, la société exploite déjà une usine de recyclage de déchets collectés au Rwanda et au Soudan du Sud. Jusqu'à récemment, quelques pays asiatiques étaient les plus gros acheteurs de déchets plastiques au niveau mondial. Mais après la décision de la Chine de restreindre ses importations de tels déchets pour des raisons écologiques, les pays en développement ont dû trouver une alternative. Simon Kairou, directeur de communication de Coca-Cola Ouganda.
L'Ouganda exportait jusqu'à 4 millions de dollars par an de flocons de bouteilles fabriqués à partir de déchets comme ceux-ci, mais la Chine a procédé à ce changement et d'autres pays ont rapidement conquis le marché.
Selon un rapport de l'Organisation internationale du travail sur l'industrie du recyclage, environ 15 à 20 millions de personnes travaillent comme récupérateurs de déchets informels dans les pays en développement avec un prix moyen de 0,16 dollars américains par kilogramme. Francis Makaou est ramasseur de déchets pour MR Green Africa.
Pour nous, le plastique n'est pas un gaspillage. Nous voyons cela comme quelque chose de bénéfique. Je ne vois pas ça comme un problème. Je sais que c'est ce qui me nourrit et qui nourrit beaucoup de monde.
L'interdiction chinoise des déchets met en évidence la nécessité pour les fabricants de plastique comme Coca-Cola d'accepter davantage de responsabilités pour le produit polluant l'environnement. La firme entend recycler 25% de ses déchets plastiques d'ici la fin 2018 et 70% d'ici 2030.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Du rap à la politique, il n'y a parfois qu'un pas. En République démocratique du Congo, Lexus Legal brigue un siège au Parlement. Reportage de Chika Odoua, repris ici par Arzuma Compaoré.
Ils ne parlent pas comme des politiciens et ils ne ressemblent pas non plus à ces derniers. mais en réalité, ils le sont. L'un veut être un élu local, un autre, Lexus Legal, le plus célèbre du groupe, vise un poste plus élevé et incite les artistes de rap à s'impliquer dans la politique pour aider à résoudre les problèmes de la RDC. Pendant 20 ans, Lexus Legal a fait carrière dans la musique engagée. Ses textes parlent du chômage des jeunes, dénoncent la corruption et d'autres problèmes sociaux. À présent, c'est vers le Parlement qu'il a tourné son regard, espérant y décrocher un siège.
Ce choix, c'est pas une nouvelle carrière, c'est presque une suite logique. Depuis que j'ai commencé cette musique, si tu me poses une question politique, je te réponds direct. Je ne dis jamais, comme beaucoup d'entre nous, qui disait « je suis apolitique ». Non, moi j'ai toujours été politique, c'est juste que je n'ai jamais été dans un parti politique, mais j'ai toujours été politique.
La politique et la musique sont étroitement liées en RDC. Certains musiciens locaux gagnent leur vie en soutenant des politiciens, ce que d'autres critiquent.
Ils prennent les musiciens pour des amuseurs, les gens qui doivent chanter pour eux, après qu'ils aient fait des dialogues entre politiques. Et moi, j'ai refusé cela. Je l'ai refusé depuis le début. Je n'ai jamais chanté après les manifestations politiques. Mais je respecte les choix des uns et des autres.
Le rappeur populaire Bob Elvis a, selon les membres de sa famille, été récemment interpellé par les forces de sécurité après avoir condamné la corruption du parti au pouvoir dans une de ses chansons. Pour la musicienne Rihanna Prescott et ses amis, la politique est trop sale. Elle évite donc d'en parler dans sa musique.
Moi, trop. La musique doit être une activité amusante, c'est pourquoi nous la faisons. C'est cela qu'on aime, c'est notre musique locale, pas de la musique sur la politique.
Le jour où j'ai su venir vous voir là, au forum, 3 jours après, avant, je m'inscrivais chez vous.
Lexus Legal et les autres rappeurs veulent démontrer le contraire, à savoir que la politique et la musique peuvent faire jonction pour le bien de la société.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons du diabète. Il s'agit d'une maladie chronique qui apparaît lorsque l'organisme ne produit pas ou n'utilise pas suffisamment de l'insuline, une hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang. Pour en parler, nous recevrons le docteur Awambo Kan. Elle est diabétologue au Sénégal. Elle nous dira comment faire pour combattre la maladie. Nous écouterons aussi le témoignage d'un malade ainsi que du docteur Frédéric Sabiyumba, directeur d'un centre de lutte contre le diabète au Burundi. Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel. Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h, temps universel, dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Quand on a America, il est arrivé en Cubans avec un drapeau. Moi, je dirais, il ne colle jamais. Il ne nous restait plus que la peau sur les os. Alors, distribution de Dakar à Lomé, c'était du real engrais américain. Des sacs partout, mais pas un seul bouquin. Les hommes ont dit, puisque c'est dans les colis, qu'on trouve à manger nos restos lits. Il nous a donné la recette du bonheur. Il nous a même donné la...
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.